Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de Talk Show. Cette semaine, notre invité est Philippe Valeod. Il est notamment écrivain, il a écrit une soixantaine d'ouvrages. Il est diplômé en sciences politiques. Bonjour Philippe Valeod.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur donc, de différents ouvrages sur deux périodes particulières, les pharaons et 39-45.
Ben, disons que j'ai deux périodes que je préfère dans l'histoire et sur lesquelles je bien sûr auxquelles je me consacre, ouais. Et qui sont d'une part on va dire le monde antique, évidemment l'Égypte en fait partie, et d'autre part la période de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement le régime de Pétain et le Reich hitlérien.
Alors, votre dernier ouvrage s'appelle « On les appelait les résistants » aux éditions L'Archipel, grande figure de la lutte anti-nazie. Dans ce livre, vous expliquez, vous faites le portrait des différents résistants. Il y a eu un choix compliqué à faire, il y en avait beaucoup plus, où vous avez travaillé pour en rechercher une trentaine que vous avez dit dans le livre.
Oui, il y a eu un choix difficile à faire. J'en ai retenu un peu plus d'une cinquantaine et j'ai essayé de les classifier. On pourra peut-être y revenir dans un instant. Mmh. Et ceux que je n'ai pas retenus, comme vous l'avez vu, en fin de livre, j'ai rappelé leur nom pour qu'on ne croie pas que j'ai fait un choix non pertinent suscité je ne sais par quelle idéologie ou choix personnel. Hein, pas du tout, évidemment. Ce que j'ai souhaité faire, c'est d'une part parler des grandes énigmes de la résistance, bien sûr, et d'autre part essayer de classifier les résistants en trois grandes familles, celle des, des héros tragiques, c'est-à-dire des gens qui sont engagés d'une certaine manière en sachant qu'ils allaient mourir. Bon. Et bien sûr, le groupe important des hommes, des femmes, pardon, et des hommes de lumière, c'est-à-dire qui se sont engagés dans le cadre d'une volonté spirituelle, hein, avec donc une inspiration souvent religieuse. Mmh. Et enfin, celui des personnalités incontestables, c'est-à-dire les plus saillantes et les plus déterminantes et qui ont eu véritablement un rôle sur l'évolution de la résistance et se faisant sur l'évolution de l'histoire de France, naturellement.
Alors, dans ce livre, vous y attelez à raconter les personnages, mais aussi, on va dire, l'histoire de la résistance. Et oui. Vous dites, en fait, au départ, dans les années avant 42, avant l'arrivée de Jean Moulin, la résistance, c'était un peu le bazar, on va dire ça comme ça. Il y avait des groupes à droite, des groupes à gauche, des groupes communistes. Il y en a qui voulaient faire des actions tout de suite, d'autres qui attendaient la libération pour agir. Cette histoire de la résistance en France, elle commence véritablement en 42 avec l'arrivée de Jean Moulin, de sa mise en place d'une résistance unifiée, on va dire.
Alors, bon, il faut quand même dire que la résistance commence dès 1940. Hein. Uh-huh. Le premier résistant, c'est le général de Gaulle, et qui traverse la Manche, comme vous le savez, en avion, etc., qui arrive en Angleterre le 17 et qui prononce le fameux discours du 18 juin. Uh-huh. Bon, et bien sûr, mais on parle de la résistance extérieure, celle de Londres, et bien sûr, il y a la résistance intérieure. Là aussi, elle commence très tôt, hein, bien entendu, simplement avec des tout petits effectifs. Alors, ce que vous dites est assez vrai, c'est-à-dire que si on ne parle que de la résistance intérieure, dès l'essence qui se passe à Londres, on doit avoir, et ils sont loin d'être tous armés, environ 20 000 résistants à la fin de l'année 1941 et au milieu de l'année 1943, hein, pour prendre une date, parce qu'on dispose d'un rapport qui s'appelle le rapport Jérôme et qui est relativement objectif. Il décompte, ce rapport, 56 000 résistants. Hein. Et vous savez qu'à la fin de la guerre, enfin, disons,
avant le débarquement.
À la date du débarquement, on va dire, du débarquement, 6 juin 1944, on a environ, on va dire, 260 000 résistants qui sont officiellement reconnus par les autorités française en leur attribuant ce qu'on appelle la carte CVR. Hein. Donc 260 000 personnes, ça représente à l'époque, et en tenant compte des 2 millions de Français qui sont prisonniers en Allemagne, pour des raisons diverses, ça représente 0,7% de la population. Je dis ça pour que vos éditeurs aient quelques chiffres dans la tête, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, hein, bien entendu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on calcule l'âge moyen de ce 260 000 résistants officiellement donc reconnus, on débouche sur un chiffre hallucinant. Rendez-vous compte, l'âge moyen de ces gens-là, de ces héros-là, est de 34 ans. Et donc, la résistance, c'est la jeunesse.
Alors, question quand même que je voulais vous poser, parce que effectivement, la période dont vous parlez était une période que nous connaissons bien dans cette radio, on en parle souvent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait de la résistance ou plus de gens qui étaient collabos en France à l'époque, en 1942, on va dire, par exemple?
Alors, vous voulez dire quels étaient les volumes respectifs?
Oui, oui.
D'une certaine manière, oui.
Oui.
Alors, oui, c'est assez intéressant de regarder. On peut dire qu'on avait des volumes respectifs assez équivalents.
Ah.
C'est-à-dire, si on considère comme collabo, ben, les gens qui sont vraiment très engagés dans la collaboration, hein, le Parti populaire français, la milice, les pétinistes, tous les cabinets ministériels qui sont très engagés, etc. Bon, et qu'on y met quand même une partie très significative de la police, hein, etc. Et finalement, on s'aperçoit que les collaborateurs les plus directs, les plus engagés, etc., c'est un groupe de 250 000 à 300 000 personnes, peut-être 350 000.
Mmh.
Et alors, on peut tout de même essayer de justifier ce chiffre en disant que à partir de septembre ou d'octobre 1944, se sont engagées des procédures judiciaires contre les collaborateurs,
mmh,
et qu'on a ouvert à peu près 310 000 procédures. Donc, vous voyez, on recoupe assez bien nos chiffres. D'un côté, 260 000 résistants, de l'autre, 310 000 personnes qui ont vraiment collaboré suffisamment pour qu'une procédure judiciaire, ce qui ne veut pas dire que toutes vont jusqu'au bout, naturellement, soit ouverte contre ces gens-là. Donc, c'est assez intéressant, enfin, c'est assez, je sais pas quoi dire.
On est un peu surpris
de constater qu'on a deux groupes qui sont en opposition absolue, qui sont tous les deux constitués français et françaises, et qui sont d'une importance comparable.
Voilà. Alors, Philippe Valade est notre invité. On les appelait les résistants aux éditions de l'Art Supel. On peut dire résistants et résistantes, puisqu'il y avait quelques femmes qui étaient également très, très importantes.
Oui.
C'était aussi, le rôle des femmes était important dans cette résistance-là.
Alors, d'abord, on peut peut-être donner un chiffre global.
Oui, allez-y.
C'est parce que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Les femmes dans la résistance, c'est à peu près autour de 15%.
Hein,
donc, c'est très significatif. Et dans les grandes résistantes, il y a des héroïnes qui sont très connues, naturellement. Ce qui est sûr, c'est qu'on trouve des résistantes à tous les niveaux. C'est-à-dire que, citons par exemple quand même Bertie Albrecht, ou bien Simone Michel-Lévy, ou Daniel Casanova pour le parti communiste, mais aussi bien sûr André De Jong, et bien sûr Lucie Aubrac, mais aussi Laure Diebold, Marie-Madeleine Fourcade, hein, qui est le chef du probablement plus important réseau de renseignement de la guerre. Je ne voudrais pas oublier Hélène Vianney ou encore Germaine Tillon, voilà. Et puis bien sûr les Le Tac, hein, et dont Yvonne, hein, la fondatrice, voilà. Donc vous voyez, en très peu de temps, j'ai cité quand même beaucoup de noms de femmes qui avaient des responsabilités essentielles.
Alors, dans votre livre, on va y venir dans un instant, vous faites le portrait, on va dire, de différents résistants. Alors, il y en a que tout le monde connaît parce qu'on en a parlé, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus. Je voulais vous poser une question. Quand on parle de résistance en général, c'est tout est fait, on va dire, dans la clandestinité. Comment on fait pour récupérer toutes les infos que vous donnez? Vous avez quelle source en l'occurrence?
Ben alors je vais vous dire, bien sûr, on a deux grandes sources. Hein. Mmh. La première source, c'est tous les écrits qui ont été composés disons, depuis la guerre. Hein. Mmh. C'est un devoir, bien sûr, de les lire, parce que tous les historiens ont beaucoup travaillé. Oui. Deuxièmement, il y a les écrits des résistants eux-mêmes. Beaucoup ont écrit leur mémoire. Je pense par exemple, bien sûr, à De Vavrin, le colonel Passy, le fameux patron du BCRA, c'est-à-dire des services secrets français. Ben, il a écrit des mémoires qui font plus de 1000 ou 1500 pages, etc. Mmh. Et puis, dernière chose, il y a maintenant les archives qui sont ouvertes. Ah. Donc à Vincennes, hein, donc au fort de Vincennes, et qui sont tout à fait accessibles et que nous avons consultés. Hein, voilà, bien entendu, on les avait déjà consultés, vous le savez, pour un livre que j'avais fait avec Gérard Chouvy il y a maintenant 3 ou 4 ans sur la Gestapo française. D'accord. On n'est pas très loin du même sujet, hein, parce qu'en face de la Gestapo française, c'est-à-dire les Français qui aident la Gestapo, il y a bien sûr les résistants, essentiellement.
Philippe Valode, on les appelait les résistants. On fait une courte pause musicale et on se retrouve dans un instant.
Avec plaisir.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasor.
Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes.
Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et je l'ai fait pour toi, je t'en prie pardonne-moi. À contre-cœur, oh bella ciao.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié
ma peine. Philippe Valode, on les appelait les résistants aux éditions de l'Archipel. On a parlé un peu en général des résistants à l'époque en 39-45. Alors, il y a quelques personnages extrêmement connus, dont celui de Jean Moulin, qui a été, on le sait, torturé, assassiné par Klaus Barbie. Ce personnage-là, il est un peu, comment on va dire, il est en même temps prudent et pas prudent. Comment vous le présentez, vous?
Bon. Je le présente comme un homme extrêmement courageux, très intelligent, très proche du général de Gaulle. Mmh. Et je le présente comme un homme sur les épaules duquel reposaient des responsabilités inouïes. Mmh. Je le présente comme un homme qui a réussi quelque chose que personne n'aurait pu imaginer, c'est-à-dire de créer le Conseil national de la résistance le 27 mai 1943. En réunissant tous les mouvements de la résistance, les représentants des partis et les représentants des syndicats en plein Paris, à la barbe des nazis.
Alors, ce qui est Ce qui est intéressant, c'est que on va laisser les gens lire le livre, mais vous dites, et vous le marquez dans le livre, que la veille de son arrestation, il écrivait une dernière lettre au général de Gaulle en disant qu'il était qu'il craignait pour sa vie.
Oui,
donc
tout à fait.
Il était conscient du danger qu'il courait.
Oui, il était parfaitement conscient. Il avait, si vous voulez, tellement de personnes à rencontrer, tellement d'ordres à donner, tellement... Hein, c'était pas du tout un professionnel, et évidemment, du renseignement. Et donc, c'est vrai que globalement, mais c'est aussi exact pour le général Delestrin, qui pourtant, lui, était militaire et aurait dû être mieux formé, tous les deux, hein, puisqu'ils vont être capturés presque en même temps, comme vous le savez. À mon avis, les Allemands, les repères, alors ils ne savent pas exactement qui c'est, mais ils se rendent compte que ce sont des gens importants. Ils sont à Lyon, etc., dans l'un pour le général Delestrin, mais enfin, il vient souvent à Lyon, et ils n'appliquent pas suffisamment des techniques de dissimulation qui, pour des professionnels, seraient élémentaires. Et donc, ils rencontrent beaucoup de gens, ils déjeunent beaucoup, etc., ils ont beaucoup de planques, et tout ça fait beaucoup de mouvements, et naturellement, ces mouvements sont plus ou moins repérés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, comme vous le savez, au sein de la résistance, il y a des personnes qui trahissent, qui sont retournées, qui sont arrêtées, suppliciées, et qui craquent, et comment leur reprocher, hein. Il faut savoir quand même que la Gestapo a retourné, la Gestapo et l'Abwehr, enfin l'Abwehr jusqu'en 42, la Gestapo ensuite, environ, on va dire 2200, peut-être 2400 résistants français ayant des responsabilités significatives, et donc elle a beaucoup appris, hein, et c'est surtout de ces gens-là qu'elle a appris, en vérité, naturellement, parce qu'ils étaient au courant, hein, voilà. Quand vous supplicez quelqu'un qui sait rien, c'est compliqué de lui... Bon, voilà, donc on avait ce deuxième aspect-là. Et puis, la dernière chose, c'est qu'au sein même de la résistance, comme vous savez, il y avait beaucoup de diversité, parfois des jalousies, et parfois des haines. Voilà.
Alors, Philippe Valade, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand on lit votre livre et les histoires de tous les résistants, on ne va pas tous les citer, évidemment, parce que c'est important, mais vous le dites assez régulièrement, il y a encore pas mal de zones d'ombre sur cette affaire, sur la libération de Aubrac, sur l'histoire de Jean Moulin et d'autres qui ont été dénoncés ou qui ont été vendus.
Oui, ou de l'estrin, contre, on peut dire. Hein,
voilà, qui ont été vendus contre de l'argent souvent ou contre des tickets de rationnement. Pourquoi encore autant de mystères pratiquement 70 ans après?
Oui, c'est... Eh bien, écoutez, votre question me touche beaucoup. Je la trouve excellente.
Merci
beaucoup. Et je suis comme vous, sidéré qu'on puisse pas encore dire la vérité aux Français. Et de temps en temps, certains le tentent. Tout ce qu'ils récoltent, ce sont des procès qui perdent souvent. Il y a une chape de plomb sur ces sujets-là.
Mais il y a une vérité qu'on peut supposer ou qui
non, il y a des probabilités, si vous voulez. Bon, je vais prendre l'exemple du procès Hardy pour l'affaire Jean Moulin, etc. Bien sûr, il y a eu deux actions judiciaires contre lui, et un, il a bénéficié, comme vous le savez, de non-lieux. Mais un non-lieu, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas coupable. Un non-lieu, ça veut dire qu'on ne peut pas prouver que vous êtes coupable. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes innocent. Donc, on est justement dans cette ambiguïté-là. Et alors, c'est vrai que c'est absolument... c'est grave, je trouve, pour la France d'en être encore là, de ne pas regarder la vérité en face, que les gens qui savent puissent pas s'exprimer. Et moi, je serai comme tout le monde ce matin, j'ai pas envie d'avoir mon nom traîné dans la boue, et donc je ne dirai rien sur les grands mystères de la résistance. Voilà, parce que c'est comme ça dans ce pays.
Bon. Est-ce qu'en écrivant le livre, vous avez appris des choses?
Oui. Oui, j'ai appris des choses.
Malgré le fait que vous
j'ai appris des choses parce qu'on est allé aux archives, parce qu'on a quand même, j'ai quand même lu tout ce qui s'est écrit, si vous voulez, sur tous ces héros que j'ai choisis. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a 52 ou 53. Et donc, c'est plus facile de faire un travail en focalisant sur quelques personnalités que d'essayer d'embrasser l'ensemble des mouvements de résistance et des leaders de la résistance, naturellement. Donc ça m'a permis d'aller plus à fond sur chacun de mes personnages, naturellement.
Combien de temps pour écrire un livre pareil?
Alors, je vais vous dire, j'écris toujours deux livres à la fois.
D'accord.
En écrivant celui-là, j'en ai écrit un autre sur un personnage qui est épouvantable, hein, monstrueux, et qui s'appelle Heinrich Müller et qui est le patron de la Gestapo allemand. Voilà. Donc, j'ai écrit ensemble, il me faut deux ans, quoi. Voilà.
Bon, d'accord.
À peu près. Et donc, évidemment, on est sur la même période, donc l'esprit n'a pas beaucoup à faire de virevolte. Hein. On est quand même toujours dans cette ambiance terrifiante hein, de la lutte contre le nazisme. Et on regarde de l'autre côté comment les nazis pratiquaient très à fond, hein, quelles étaient les méthodes de la guerre d'abord, donc avec Canaris et surtout de la Gestapo, qui finit par absorber la peur, comme vous savez, et donc qui était géré par ce personnage tout à fait effrayant d'Heinrich Müller et qui est pourtant était the man of the street, vous savez, the average German.
Alors, dans tous les personnages dont vous avez raconté des histoires, est-ce qu'il y en a un qui vous a plus intéressé que d'autres?
Il y en a deux, si vous voulez, que je trouve que j'aime beaucoup. Il y a André Dejonge, qui est celle qu'on surnommait Petit Cyclone. Et on pourra peut-être en dire un mot. Et puis, il y a quand même le colonel Passy, parce que je dirais que, donc André de Vavrin, qui a créé le BCRA, donc les services français, je dirais que De Gaulle, sans les services français, il est tout nu. Hein. Il n'existe pas.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et donc, c'est un homme fondamental. Là aussi, si on a une minute, j'aimerais dire deux, trois choses.
Alors, on va y aller. Il nous reste vraiment deux minutes pour parler de ces deux personnages. Pourquoi vous les aimez, donc, ces deux personnages-là?
André Dejonge, parce qu'elle a une énergie qui déplace les montagnes, hein, et de fait, d'ailleurs, il faut les déplacer, parce que pour essayer de sauver, donc vous savez ce qu'elle fait, elle est belge, et elle sauve les pilotes et les soldats anglais, parfois français, mais surtout anglais, tombés aux mains des Allemands. Et donc, elle veut être une nouvelle Edith Cavell, on pourrait dire. Hein. Vous vous souvenez, celle qui avait été fusillée par les Allemands en 1915. Et alors, elle doit déplacer les montagnes parce que ces prisonniers, elle doit leur faire traverser les Pyrénées. Et donc, elle doit les véhiculer, vous vous rendez compte de la difficulté, à travers toute la France occupée, depuis le nord, bien sûr, parce que c'est là que la bataille se passe, jusqu'aux Pyrénées, donc jusqu'en Espagne. Bon. Malheureusement, comme vous le savez, elle crée un réseau qui s'appelle Comet, un réseau qui va sauver, le chiffre officiel, c'est 237 aviateurs et soldats alliés, mais en fait, la vérité est autour de 600 à 700, donc c'est considérable, et elle tombe évidemment dans un piège. Vous savez, là aussi, il y a des traîtres dans son réseau.
Comme partout, d'ailleurs.
Voilà, comme Jacques Dessoubry, qui est l'un des plus célèbres, par des dégâts qu'il a causés. Et donc, elle est arrêtée, elle est déportée. Son père, qui était son relais parisien, est fusillé. Donc, vous voyez, on ne plaisante pas. Et elle va parvenir à subsister. Elle sera libérée par les Alliés. Elle recevra la Légion d'honneur, la médaille de la résistance. Et les Belges font encore mieux, puisque le roi Baudouin va la nobler, s'il vous plaît.
Alors,
ce qui est formidable, c'est que tout le reste de sa vie, elle va le consacrer en Afrique à aller soigner les lépreux. Chapeau bas, Madame Dejonge.
D'accord. Une minute pour le général Passy.
Oui. Alors, De Vavrin, c'est un polytechnicien. Il est licencié en droit, il a fait normal sup, vous voyez à peu près le niveau. Bon, il a 29 ans quand il devient patron des deuxième et troisième bureaux, c'est-à-dire du BCRA, et il va collecter l'enseignement. Il dirige un bureau qui en 43 rassemble 420 agents, vous rendez compte. Bon. Et c'est lui qui va promouvoir à la fois la CND, la Convention Notre-Dame, Libération Nord, très proche de Pinault aussi, etc., très ami avec Brossolette. Et son heure passera. Il ira à Alger, bien sûr, et vous m'entendez là ?
Oui, je vous entends, on vous écoute. Oui.
Très bien. Il ira à Alger et il sera placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, Emmanuel Dacier de la Vigerie, avec lequel il entretenait une haine très forte.
Alors, j'ai...
Donc ça...
Oui.
Oui.
Je voulais, parce que le temps tout passe très vite, et je voulais encore vous poser deux questions. Il y a quelques semaines, j'ai reçu dans cette émission une personne qui parlait de la résistance juive en Algérie. Est-ce qu'elle fait partie de...
Elle fait partie de l'histoire.
D'accord.
Hein? Okay. Elle fait partie de l'histoire, puisque vous le savez, c'est les jeunes juifs, etc., qui ont eu un rôle clé dans le débarquement de novembre.
Donc elle fait partie de la grande histoire. Hein?
Voilà, c'est une histoire magnifique. Heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils ont réussi à paralyser l'ensemble des Vichysois ce sont des héros
Dernier mot, Philippe Vallade, je vais vous demander d'être un peu concis parce que le temps file vraiment qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les pousser, pour leur demander d'aller lire votre livre? Qu'est-ce que vous leur diriez si des gens sont encore hésitants?
Oui, je leur dirais, découvrir l'esprit de résistance, c'est quelque chose de fondamental dans la vie et qu'on peut appliquer dans sa vie.
Philippe Vallade était notre invité, on les appelait les résistants, grande figure de la lutte anti-nazie 40-44 aux éditions de l'Archipel. Votre prochain ouvrage en un mot?
Ça sera probablement, j'ai deux ouvrages qui sont en compétition, qui d'ailleurs tous les deux aux éditions du Rocher.
D'accord.
Et le premier, c'est celui dont je parlais sur Dr. Heinrich Müller. Et le second, ça va s'appeler Les 12 procès de Nuremberg, parce qu'il y a eu le célèbre.
Voilà.
Et puis 12 derrière, qui jugeaient les Allemands par catégorie, les militaires, les médecins, etc.
Voilà.
Et donc, le titre, ça va être probablement « Les 12 procès de Nuremberg et l'impossible dénazification de l'Allemagne ».
Alors, j'espère qu'on recevra ces ouvrages.
On restera dans la période.
Voilà, on recevra ces ouvrages, on en parlera. Philippe Vallade, je vous remercie.
Merci à vous.
Je vous souhaite passer une bonne journée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.